associé Stellantis. Alors Stellantis, c'est 15 marques automobiles, hein. C'est un des géants mondiaux. Stellantis, c'est essentiellement Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Chrysler. Et c'est historiquement l'usine de Poissy qui va fermer.
Oui, l'usine Stellantis de Poissy, usine historique qui a employé jusqu'à 27 000 personnes dans les années 70, aujourd'hui ils sont 2000, arrêtera de fabriquer des voitures à partir de 2029. Alors l'usine sera toujours là, va se concentrer sur d'autres activités, mais elle n'aura plus besoin de 2000 salariés, elle va en garder en moyenne 1000, avec les départs en retraite, les autres vont être recasés ailleurs. Alors pourquoi ? C'est simple, hein. On vend de moins de voitures en France. Voilà. Et elle coûte 4 fois moins cher à produire en Chine. Bon. Donc et alors ce problème français, c'est un problème européen, je regarde les chiffres. En Europe, pas moins de 3 millions de ventes se sont volatilisées depuis 2019, depuis le Covid. Donc on vend moins de voitures partout en Europe, les Chinois nous concurrencent, et donc malheureusement, la conséquence, c'est la fermeture d'usines, ou en tout cas des usines qui sont reciblées sur d'autres productions moins importantes et qui vont donc moins employer. Est-ce que c'est le symbole de la fin de notre industrie en France ?
32-16 pour en parler avec les Gigi. Antoine.
Moi, j'habite à Dunkerque, un territoire industriel, et mes copains dunkerquois, ils travaillent dans les usines, ArcelorMittal, Aluminium Dunkerque, etc. Et donc, quand je vois l'arrêt de la production de voitures à Poissy, je pense au phénomène dramatique de désindustrialisation dans notre pays. Emmanuel Macron a fait beaucoup de discours sur l'industrialisation ces dernières années.
Encore hier devant les maires où il a dit qu'on crée des emplois industriels en France en soi.
Et ben voilà. Et ben en fait, on se fait complètement avoir par le discours. Il y a eu un très léger rebond à plus 15 000 emplois pendant 1 ou 2 ans, mais depuis quelques années, on repère de l'emploi industriel. On perd des industries. En 2025, il y a plus de fermetures que d'ouvertures d'usines, malgré les dizaines de milliards. Et quand je dis des dizaines de milliards, on approche peut-être la centaine de milliards mis sur la réindustrialisation, le programme France 2030, les accords fiscaux passés avec les usines qui vont s'installer chez nous. Mais la France n'est plus compétitive. Le coût du travail est trop haut, la fiscalité est trop haute, il y a une complexité administrative dingue. La Chine et les USA subventionnent leur industrie automobile. C'est pour ça que Ford continue à produire aux USA. Et nous, malgré les grands discours, malgré les milliards qu'on balance...
Oui, parce qu'on subventionne aussi, on soutient. Mais
non, on est assez limité en matière de subvention par l'Union Européenne.
On ne peut pas, parce que l'Union Européenne
l'empêche. On fait des espèces de deals un peu cachés, un peu masqués, c'est du deal fiscal. T'as une entreprise qui va dire je vais installer à Dunkerque une grosse usine de batterie, c'est le cas, et ils vont aller dealer avec Bercy des rescrits fiscaux. Donc c'est de la subvention un peu déguisée, pas très claire, tout est ultra complexe. Donc voilà, tant qu'on n'arrivera pas à baisser le coût du travail en France, pas en payant moins les salariés, en baissant les charges sociales, tant qu'on n'arrivera pas à faciliter l'installation, on continuera à se désindustrialiser, et ce sont encore des emplois qui disparaîtront. Donc quand Poissy ferme, ça doit être l'alerte absolue, quoi.
Mais tu sais que
les gens réagissent pas.
Pour compléter ce que tu dis, pour la première fois en 80 ans, Volkswagen a fermé une usine en Allemagne.
Voilà.
Historique. Ils l'ont fermé du côté de Dresde, c'est l'ex-Allemagne de l'Est. C'est la première fois en 80 ans que Volkswagen a fermé une usine, alors que c'était le géant de l'automobile mondiale qui ne cessait de produire, de faire des bénéfices.
Ben oui, donc ça explique aussi que ce n'est pas qu'un problème français, c'est aussi le problème de la consommation, entre guillemets, de l'achat de la voiture qui a baissé partout en Europe.
On a aussi un peu stigmatisé parce qu'il y a un discours aussi très anti-voiture.
Oui, oui.
Un discours politique anti-voiture.
Il y a ça, il y a le fait que d'abord le discours anti-voiture.
Voiture individuelle.
Il est puissant en France en particulier. C'est-à-dire qu'on dit aux gens qu'il faut circuler autrement. Ce qu'on a oublié, c'est que 80% du territoire, c'est pas des grandes villes. C'est pas des agglomérations avec des métros, des trams, des TER et j'en passe et des meilleurs. Donc ça, c'est le discours complètement contradictoire. Il y a la question du pouvoir d'achat. Il y a la question aussi des charges en France dont parle Antoine. Surtout, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que comme on a depuis 50 ans laissé le gouffre et que en fait la gestion, elle a toujours été au mandat, au quinquennat, à l'année, jamais dans la vision de 50 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va nous dire? On va nous dire, oui, on peut pas baisser le coût du travail, c'est-à-dire en baissant les charges, puisqu'on est tellement endetté. Donc, c'est le chien qui se mord la queue. C'est-à-dire que si demain, le gouvernement dit, il faut baisser le coût du travail pour créer l'emploi, sauf que ce gouvernement et les autres bien avant aussi n'ont pas compris le cercle vertueux. C'est-à-dire que à partir du moment où on serre à la ceinture et qu'on impose encore plus les gens, eux aussi, sert la consommation. Et quand il sert la consommation, bah forcément, les rentrées sont moins importantes. Et la voiture, c'est symptomatique. Une voiture, c'est 20, 30, c'est 30, 40 000 euros. C'est hors de prix pour les gens. Et en même temps, ceux qui les fabriquent sont tellement pourris de charge que finalement, ils ne peuvent pas vendre.
Et de normes.
N'en parlons même pas, les normes.
Stellantis va garder 4 usines en France sur 42 dans le monde.
CQFD, des industriels.
Au moment, je rajoute un élément. Au moment où le géant chinois BYD, dont vous commencez à connaître les voitures, vous savez, c'est BYD, il est en train d'installer son usine en Hongrie. Oui. Elle va ouvrir du côté de Szeged. Elle va ouvrir là au deuxième trimestre 2026. Les prix, ils vont être... En plus, ce qui est dingue, c'est que l'usine chinoise BYD va être éligible à quoi? Au bonus.
Bah, elle est dans l'Union européenne.
Au bonus écologique, puisqu'elle va être dans l'Union européenne du côté de la Hongrie. Donc, on va pouvoir acheter des voitures chinoises
financées
avec le bonus écologique européen. Ouais. Et elles vont démarrer à 19 000 euros.
Allez, voilà.
Non, mais...
C'est baisé. C'est plié. C'est fini.
Ouais, c'est ça.
Non, mais on va rouler chinois. Après nos voitures européennes, on pourra les garder dans les musées. On ira les voir. Je t'ai coupé.
Ça coûte combien une Renault 5 la dernière?
Elle est à 30 et quelques mille.
Voilà.
Ça se fabrique encore une Renault 5?
Elle est jolie, mais enfin c'est des niches. Qui peut se payer une bagnole à plus de 30 000 euros?
Regardez le prix.
Une ville urbaine, une voiture urbaine.
Vas-y.
Est-ce qu'on peut penser aussi aux salariés? Moi, c'est ce qui me touche dans cette affaire par rapport à Stellantis et par rapport à d'autres, parce que c'est pas un cas isolé. On a vu ça aussi avec Audi. Audi, c'était où? C'était à Bruxelles. On a vu ça avec Nissan à Barcelone. Bon, bref, on va rester français. Mais pour moi, il y a un truc simple, c'est-à-dire que quand une usine arrête de fabriquer des voitures, c'est pas une reconversion, c'est un recul. Et je pense à ces salariés qui, en fait, finalement, ils vont plus pouvoir fabriquer, mais ils vont faire de la reconstruction, ils vont faire du recyclage. Ouais. Donc en fait, on vide leur métier. On garde les murs, mais on vide leur métier. Et ça, moi, je trouve ça pathétique. Et les pauvres, parce qu'on va quand même passer de 2000 postes à 1200 postes, ça veut dire qu'il y a 800 familles derrière et qu'on en fait quoi? Alors il va y avoir des espèces de plans de retraités en avance, mais
ce qui est assez étonnant à constater, c'est que auparavant, lorsqu'une usine fermait, il y avait un défilé des responsables politiques devant la porte de l'usine, qui allaient voir les salariés, notamment la gauche défilait. Je regardais les réactions, mais aucune réaction, notamment au Parti Socialiste. Non, je ne crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, cette gauche est détournée du monde de l'industrie des ouvriers. De toute façon, c'est plus les électeurs, les ouvriers votent plus à gauche. Donc, j'ai été étonné de ça. Je veux dire, il y a quelques temps auparavant, on aurait vu le premier secrétaire du PS devant Stellantis en disant pactation, etc. On va se battre. Et en plus, le problème, c'est que cette gauche tient un discours assez contradictoire parce que elle est très présente dans les grandes villes. Et dans les grandes villes, on nous explique qu'il faut abandonner la voiture. La voiture, c'est ringard, c'est réac, etc. Donc les mêmes qui tiennent ce discours, c'est vrai que c'est difficile d'aller devant Poissy en disant les gars, on vous soutient, faut continuer à fabriquer français. Mais ça m'amuse. C'est-à-dire, c'est une gauche qui aujourd'hui est très concentrée quand un patron de maison d'édition se fait virer. Qui, à mon avis, qui a pas de problème, qui aura pas de problème ensuite de chômage, etc. Mais en revanche, des gens qui, là, et c'est leur vie qui est en jeu, à Poissy, dans les Yvelines, là, on voit pas la gauche. Et en 2027, je pense que cette gauche, quand même, devrait essayer de se reconnecter avec une partie de cette
gauche. Mais non, ça, je te dis, il y a une espèce de... il y a une espèce de fatalisme parce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas faire grand-chose.
Il n'y a pas de tenir un double discours.
Le seul moyen de faire, c'est ce que disait Antoine, c'est de remettre en cause complètement notre modèle aujourd'hui seulement.
On peut pas, il faut du courage
politique. Au moment où je te dis, les rouleaux compresseurs chinois arrivent et ils se disent, comment on peut faire? C'est le coût du travail,
c'est
mettre le paquet sur la recherche et développement. C'est ce que font les Allemands. C'est-à-dire, les Allemands, je regardais l'usine de Dresde, elle ferme et ils se disent, de l'usine de Dresde, il faut la transformer, il faut mettre des ingénieurs, il faut mettre le paquet sur la recherche et développement. Ouais. Donc c'est ces virages-là qu'on doit prendre. Le problème, c'est qu'on va les prendre trop tard.
Les Chinois, pendant très longtemps, ils nous copiaient, mais maintenant, ils innovent.
Oui.
ça le problème. Ah oui, avant, ils nous copiaient, mais maintenant, ils innovent.
Regardez en France, on est en train de se plaindre parce que le niveau en maths des jeunes est catastrophique et on tire la sonnette d'alarme. Et regardez la question du vêtement. La question du vêtement fait polémique,
On va retrouver Mathieu, chauffeur routier. Bonjour Mathieu.
Bonjour GG.
Est-ce que c'est fini alors l'industrie ou pas?
Les Français savent encore faire des produits de qualité, mais l'industrie française, tant que, pour moi, on va dire, elle est considérée comme morte, la relever, ça va être pratiquement mission impossible. Tout ça à cause des différents gouvernements qui sont passés, que ce soit de gauche, de droite, de centre ou de n'importe où. Ils ont, avec leur charge, ils ont tué l'industrie française. Les luttes excessives des syndicats qui demandent toujours plus. Et on est arrivé dans une situation où c'est intenable. En plus, l'État français, il prostitue un peu notre industrie en vendant n'importe quoi. Doliprane, ils vendent ça aux Américains. On a un truc français qui marche bien. Mmh. On va le vendre aux États-Unis. L'État français tue l'industrie française. Certes, il y a la concurrence chinoise et autres, mais l'État français tue l'industrie française tout simplement. Parce que, par exemple, là, des gens qui veulent bosser, on les interdit de bosser pour le 1er mai. On interdit aux gens de travailler, mais par contre, on n'interdit pas aux gens de payer. Et moi, je trouve qu'on est dans une politique de développement, mais vraiment ridicule. On va régresser, puis au final, on sera plus capable de faire quoi que ce soit, puis on va faire exploser le chômage en France. Et puis, on se trouvera tous à la NPE, à l'ancienne, à chercher du travail, et puis voilà, faire tout et n'importe quoi.
Mathieu, on a Loïc qui est avec nous du côté de Nogent-sur-Marne, qui est directeur commercial. Bonjour Loïc.
Bonjour les grandes gueules.
Qu'est-ce que vous en pensez de la fermeture de l'usine de Poissy? Alors, les postes qui vont être maintenus, ce sera de la production de pièces automobiles, valorisation de pièces dans l'économie circulaire, préparation et transformation de véhicules, impression 3D de pièces pour petites séries. Voilà ce qui va rester à Poissy. Vous pensez de la fermeture alors Loïc?
Déjà, il faut voir l'impact historique que c'est pour les gens là-bas. Moi, j'ai mon frère qui a vécu sur cette zone-là. Il y a principalement, on est comme dans des villes type à Clermont-Ferrand autour de grandes boîtes comme ELM Leblanc. Le Clermont-Ferrand, c'est Continental, pardon. Limoges, c'était ELM Leblanc. Et là, pour Poissy, si vous voulez, c'est déjà juste pour les gens qui sont travaillés, qui ont fait leur vie, qui ont fait des enfants, qui ont pu tout ça, c'est déjà un drame social. Il faut voir aussi toujours derrière l'impact économique, il y a l'impact des humains. Voilà, avant des chiffres, on est avant tout de la matière biologique, les amis. Donc ça, c'est déjà ça se fait au niveau social. Au niveau économique pur et sur la partie industrielle, pardon, mais tout ça est extrêmement logique. Tout ça est extrêmement logique parce que tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est lié quand même malheureusement à la volonté politique. Qui écrit un code fiscal? C'est bien les textes de loi, les décrets de l'Assemblée nationale avec une assemblée. Donc les politiques dessinent le pays sur un cadre pour rendre stable ou instable une fiscalité. C'est bizarre. Hein, on est tombé ces dernières années dans la stabilité. Et puis faire des caps, notamment...
Mais ça remonte à plus longtemps que Macron, vous savez, là, du coup...
Macron a inventé le tertiaire, monsieur.
Oui, mais je suis pas à choix. Sincèrement, la désindustrialisation a commencé, on va dire, sous Mitterrand. Elle s'est poursuivie sous Chirac. Et on n'a pas réussi à inverser la tendance.
Mais ce qu'on peut reprocher à Macron, c'est le discours qui est en décalage avec la réalité des actes. Il a un discours très volontariste.
Mais là, je défends le président. Il avait quand même un discours volontariste d'autres n'avaient plus, quoi.
Mais donc, si t'es volontaire, tu sabres dans les charges, le coût, les normes. Et en fait, il n'y a rien. Il y a juste de l'argent public balancé pour faire
actif ce que tu déclares.
Allez-y, travail. Bien sûr, allez-y.
Si je peux me permettre, on est d'accord que aujourd'hui, on voit bien que la nation et l'énergie, l'importance que c'est l'énergie pour faire des entreprises vertueuses qui ne payent pas trop cher son énergie, pour les particuliers se chauffer, se déplacer. On voit bien que l'énergie, c'est presque comme le militaire. D'ailleurs, le militaire se nourrit aussi de l'énergie pour pouvoir combattre. Donc, sans une énergie souveraine, puissante, tout le pays est embarqué. Donc, monsieur Truchot, vous me dites que ça fait depuis longtemps. Qui a orienté le démantèlement en partiel de la filière nucléaire?
C'est François Hollande.
Ça a
commencé par François Hollande. Au début du quinquennat
de Macron, ça a continué.
Oui.
Mais tout le monde. Ah pardon. Alors je vais vous dire, j'ai retrouvé des discours de Marine Le Pen. J'ai retrouvé des discours de Marine Le Pen qui en 2018 nous expliquait que le nucléaire c'était dangereux. Pardon, il y a eu à un moment donné dans la classe politique de droite comme de gauche un discours très anti-nucléaire. Il y avait eu Fukushima, etc. Et il fallait sortir du nucléaire. Alors plus ou moins rapidement selon les uns et les autres. Mais même Marine Le Pen qui aujourd'hui se targue d'être la grande défenseuse du nucléaire à l'époque était dans ce discours c'est dangereux. Édouard Philippe, tout ça. Alors maintenant ils disent tous l'inverse. Ils disent tous, c'est notre souveraineté, etc. Le problème, c'est peut-être parce qu'on n'a pas des politiques qui sont suffisamment visionnaires, comme l'ont été certains dans le passé. Peut-être le problème.
On ne peut pas rester sur le fait que c'était mieux avant. Il faut avoir un plan de vision sur le long terme.
Allez-y, Loïc.
Non, mais il y a quand même aussi des choses qui sont très curieuses sous Emmanuel Macron avec son discours de souveraineté. Et vous avez raison, ça date d'avant. Faut pas être binaire là-dessus. Mais regardez quand même les typologies d'entreprises qui sont parties. On en a certaines, elles construisent le Charles de Gaulle, d'autres le Rafale. Les filières nucléaires, aujourd'hui, pour construire en France, on a 20% à cause des turbines, c'est faut appeler Trump. Si on voulait le vendre, on a un problème de balance commerciale.
Mais même sur... Loïc...
Mais Loïc, Emmanuel Macron, en tant que ministre de l'économie sous Hollande...
Même pour faire fonctionner les canons qu'on livre à l'Ukraine.
Lui qui a signé Alstom Energy, c'est pas Hollande, c'est lui. Montebourg en a parlé devant les caméras de parlementaires de la
Commission d'enquête.
Il nous l'a dit ici aussi. Pardon.
Mais Loïc, pour l'anecdote, d'ailleurs, dans le futur nouveau porte-avions, je crois que les catapultes seront américaines, d'ailleurs, si je me souviens bien. Loïc, Mathieu, je vous remercie d'avoir été avec nous. Fermeture du site Stellantis. Est-ce que vous pensez que c'est la fin de l'industrie? Oui ou non? Vous mettez oui à 94%.